Bonjour à toutes et à tous. Nous voici entraînés par notre série sur l'histoire entre la France et l'Algérie, hors des studios de Mediapart, dans un petit restaurant du 11e arrondissement. C'est ici que nos invités du jour, un père et sa fille, nous ont donné rendez-vous pour interroger tout à la fois un silence et une quête. Le silence d'un père qui s'est tu sous le poids des violences de la colonisation française, la quête d'une enfant qui, à l'âge adulte, a voulu savoir combler les trous d'un récit familial tronqué. Dorothée Myriam Kellou a filmé son père, Malek, dans son retour au pays, au Bled, à Mansoura, en Algérie, où il n'avait pas remis les pieds depuis plus de 50 ans, un demi-siècle, depuis que l'armée française avait transformé son village en un camp de déportation. C'était en 1958. À Mansoura, tu nous as séparés est un film bouleversant qui interroge une tragédie largement occultée en France, celle des camps de regroupement de population pendant la guerre d'indépendance en Algérie.
شفت حاجة اللي شفت عليها مليح اللي ماركاتني بزاف هي كي جاء القلعة الكامية خلاص ركبوا خواتاتي تركب التمار جدة عماماتي إلى آخره جاي يمشي كنت أنا وليد عمي هو شوي كبير عليا أنا كنت حوالي 7 سنين في عمري هو يكون 10 9 سنين يكون 9 9 هكذاك 9 ما لحقش 9 كان واحد الدوري كان تما واقف كل كاميو عنده واحد هكذا يتفكر باسكو كاين بزاف العسكر كاين اللي يمشي وكاين اللي حابسين عند الكوان هذاك ما خلاناش نركبو مانيش فاهم علاش لليوم ماقدرش نفهم باش نشرحها اسم ولادنا خوف الكاميو مشى نشفع لي كي مشى راحت ما راحو خواتاتي تحت جدة راح عماتي
Bonjour Malek Kellou.
Bonjour.
Bonjour Dorothée Myriam.
Bonjour.
Vous documentez ensemble une mémoire intime enfouie, une mémoire collective, celle des camps de regroupement de population pendant la guerre d'Algérie. Plus de la moitié de la population rurale algérienne a été déplacée de force pendant la guerre d'Algérie entre 1954 et 1962. Malek, comment votre village de Mansoura s'est-il transformé en un camp de regroupement ?
On commence la guerre d'Algérie, c'était en 1900, qui est arrivé chez nous, genre 1955-56. Premier point, mon école brûle. Le FLN a décidé de brûler les écoles françaises, etc. Je me retrouve sans rien, sans école, dans la rue. Ensuite, crescendo. Les populations qui étaient à l'extérieur de Mansoura, dans les montagnes isolées, donc des villages isolés, on les a tous ramenés dans Mansoura, dans mon village, et on a fait un grand camp de regroupement entouré de barbelés. Donc tout le village était électrifié, ils nous ont laissé deux portes, une à l'est et l'autre à l'ouest. Celle de l'ouest, c'est pour emmener nos morts, et celle de l'est, on allait chercher de l'eau, parce qu'il n'y avait pas de l'eau à l'intérieur du village. C'est uniquement une survie.
Et dans votre maison, vous vous êtes retrouvé avec d'autres familles, du coup.
Avec d'autres familles.
Vous voilà. Étiez combien ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ?
En fait, on avait dans ma propre maison, on avait quatre familles. Et ça c'était fait avec beaucoup d'intelligence.
Et vous étiez entassé, puisque la maison n'est pas grande.
Oui, n'est pas grande. On a partagé le tout. On partageait l'eau, on partageait le pain, on partageait les difficultés de la vie du quotidien. C'était ça le but. Et tout ça était très organisé. Discrètement par le FLN. Il y avait une force morale derrière qui faisait que les Algériens devaient faire face à des calamités. Et ces calamités-là se traduisaient par justement une morale qui se faisait par rapport à l'adversité qui était imposée.
Vous aviez 10 ans à peu près à l'époque, c'est cela ?
Oui.
Et est-ce que vous vous souvenez précisément de ce jour où d'autres familles sont arrivées dans votre maison ?
Ah oui, comme aujourd'hui. C'est des faits marquants. C'est-à-dire que dans nos. Avant que la chose ne se passe, on sentait qu'il y avait des tensions, il y avait des militaires qui allaient dans les montagnes en face. On voyait des couleurs de napalm, en fait. Et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et justement, À la fin de ces bombardements, toutes les populations étaient ramenées dans mon village.
Et au quotidien, la vie, elle s'organisait comment? C'était une vie de misère?
Oui, je pense que Albert Camus a très bien décrit ce qu'il appelait les jours de Kabylie, où il décrivait justement toute la misère des Algériens avant le déclenchement de 1954. Il écrivait dans Algérie Républicain tous les articles qui concernaient la vie sociale, le médical, la scolarité. Il disait que c'était insupportable, que les Kabyles étaient en train de vivre des jours calamiteux. Donc on savait tout ça. Et de plus, nous, lorsqu'on nous a regroupés, on était affamés. Enfin, moi, ma famille, c'est l'une des plus riches du village. On avait nos terres qui étaient à l'extérieur. On ne pouvait plus les cultiver. Donc on était privés de nos ressources économiques. Vraiment, on était dans la misère totale. Et à mon avis, l'objectif que je disais hier, dans un des débats avec notre film, c'est que c'est un peu la soumission. Soit vous vous soumettez, vous prenez les armes contre les FLN, on vous fout la paix, vous avez des salaires, vous allez avoir les bienfaits de la colonisation. Ou alors, vous restez comme vous êtes, là vous allez mourir de soif et de faim.
L'histoire de ces camps de regroupement est méconnue en France, mais aussi en Algérie. Et la force de votre film, c'est d'être à la fois une thérapie familiale pour un père et sa fille, mais c'est aussi une thérapie collective dans votre village. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'a provoqué ce film dans le village ?
Donc en fait, l'idée, c'était de faire ressurgir une mémoire qui était présente, en fait, mais dans le silence. Et donc, j'ai organisé cette projection à l'intérieur du village de Mansoura et j'ai invité les habitants qui ont vécu cette expérience historique, mais aussi leurs enfants, leurs petits-enfants, à venir voir ces extraits. Et c'est des images qui sont assez parlantes parce que c'est des images, en fait, de propagande. Parce que le jour où, en fait, cette histoire de camp de regroupement a été révélée dans la presse française, notamment dans le journal Le Monde en avril 1959. C'était vraiment un scandale. On a comparé ces camps de regroupement aux camps de concentration nazis. Ce n'étaient pas des camps d'extermination, à la différence des camps de concentration nazis, mais il y avait effectivement cette peur dans la société civile française que, effectivement, de nouveau, une expérience concentrationnaire était mise en place. Et à ce moment-là, les autorités françaises ont essayé de, quelque part, d'effacer la violence de cette histoire en enjolivant la réalité et en expliquant que finalement c'était non pas des camps, mais des villages de regroupement.
Des lieux de modernisation.
Voilà, en fait c'était un outil de modernisation de l'Algérie rurale. Donc il y aurait donc un dispensaire, un médecin, un instituteur et que finalement... bientôt il y aurait l'électricité, l'eau. Donc on en a fait vraiment une idée de développement de l'Algérie rurale qui était vraiment très, très négligée et très, très peu administrée à l'époque. Et c'est des images qui, en fait, qui ont provoqué une colère. Et jusque-là, je ne l'avais pas ressenti dans le village. J'avais au contraire ressenti une forme de... peut-être de, par moments de désolation, mais d'acceptation. Et là, j'ai senti vraiment, dans l'extrait d'ailleurs que j'ai choisi pour le film, une colère. C'est-à-dire que le mensonge de ces images a provoqué une réaction forte. Et c'est non, ça ne se passait pas comme ça. Les relations avec l'armée française qui surveillait le camp, non, ce n'était pas juste des poignées de main et des sourires échangés, ce qui était montré dans les images. Donc, c'était aussi voilà, une manière de provoquer une mémoire qui, par moments, pouvait avoir du mal à ressurgir.
Ces camps ont été très peu documentés. Cela a concerné combien de personnes en Algérie ?
Alors, en fait, les camps eux-mêmes, parce qu'il y a différentes formes de camps. Là, Mansoura, en fait, c'est ce que l'historienne Malika Rahal parle de camps-localités. En fait, c'était des villages qui existaient déjà et qui ont été transformés en camps de regroupement avec ces fils barbelés. Mais il y a aussi des camps qui ont été créés, en fait, dans des plaines qui n'étaient pas habitées. Et les populations étaient regroupées près d'un poste de l'armée française qui surveillait donc la zone. Et parfois, c'était des tentes, parfois, c'était des maisons que les habitants eux-mêmes construisaient. Voilà, des baraques. Et puis aussi, après ce scandale dans la presse française, il y a eu cette idée de modernisation de l'Algérie rurale avec vraiment des camps, donc on appelait villages, et des maisons en dur qui continuent d'exister aujourd'hui. Je suis allée au-delà du village de Mansoura, près de Béjaïa par exemple. Il y a des endroits où on retrouve ces camps où les gens habitent encore dans ces maisons qui font entre 20 et 35 mètres carrés, qui sont très basses de plafond. Et on est vraiment marqué en fait, de voir qu'il y a des traces de cette histoire qui est si peu documentée.
Les conséquences ont été ravageuses de ces camps de regroupement. Il y a eu à la fois un exode rural massif, un sous-prolétariat rural et urbain qui s'est créé, d'une violente déstructuration sociale, de l'attentisme et de l'immobilisme social. Il y a d'ailleurs eu des travaux comme ceux de Pierre Bourdieu ou de Michel Cornaton qui ont mis en lumière ces changements profonds et irréversibles. Vous, Malek, à votre échelle, à l'échelle de votre famille, quelles ont été les conséquences de ce regroupement ?
C'est lorsqu'il y a eu le regroupement, il y a eu tout de suite une rupture dans l'histoire de la féodalité algérienne. Avant, c'était des familles qui étaient très proches, regroupées, qui parlaient la même langue, qui avaient les mêmes jeux, qui avaient les mêmes coutumes, ils s'échangeaient, ils se mariaient, ils divorçaient. Bon, voilà, il y avait la vie de village. Et d'un seul coup, tout a été mélangé à autre chose, et avec un sous-prolétariat qui s'est créé, avec des interdictions de sortie, même si on voulait sortir d'un autre village, il faut avoir une autorisation de sortie, un papier nous prouvant que vous habitez là, que vous allez revenir, on vous donne 8 heures, 12 heures. Enfin, vraiment, il y a un contrôle systématique, on était surveillés. Et on avait même des montagnes qui étaient, je me rappelle comme maintenant, des montagnes où on a construit des gardes, qui surveillaient avec des jumelles tous les déplacements, tous les va-et-vient. Donc ils savaient tout. Ils avaient les gens, même parmi les nôtres. Les nôtres n'étaient pas tous des gens acquis au FLN ou pour l'indépendance. Il y avait des gens qui travaillaient pour l'armée française. Donc il y avait des gens qui envoyaient des signes. Il y avait un moudjahid qui m'expliquait comment ils faisaient les signes. Ils envoyaient avec la lampe électrique, avec un code, en disant que ça y est, ils sont arrivés, les moudjahidines, et que les autres allaient tout de suite envoyer des bombes éclairantes. Et le village était... Enfin, on était dans la terreur complète. Et un jour, moi, ça m'est arrivé, j'ai failli mourir. On a jeté donc des éclairantes le soir, et il y a une bombe qui est tombée sur l'endroit où on dormait. Et cette bombe est restée suspendue. Elle aurait pu exploser en dessous, on serait tous morts. Donc c'est vraiment une terreur organisée, quoi. Et au moment où on a libéré le village, c'était vers la fin des années 59. On avait annoncé que De Gaulle allait passer pour aller d'Alger à Constantine. Et la presse suivait le cortège de De Gaulle. On avait dit c'est pas possible, il faut enlever les fils électriques et entourer le village. Parce que si la presse va savoir qu'on était regroupés dans des camps, c'était enfin l'Allemagne, enfin c'était le camp de concentration. Ils ont enlevé ça du jour au lendemain, on était plus ou moins libres. Voilà.
Et d'ailleurs, tu m'avais dit une phrase que moi j'avais trouvée très marquante la première fois que j'ai découvert cette histoire sur les regroupements. Je t'avais dit, mais c'est quoi les regroupements ? Et tu m'avais dit, les regroupements, c'est le point d'attaque d'une vie brisée par la guerre qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. Et au départ, quand tu m'as dit cette phrase, moi, je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Et en fait, je pense qu'en approfondissant cette histoire et en allant chercher cette mémoire, j'ai compris aussi que, en fait, c'est un point de rupture dans l'histoire de ces villages et que en fait beaucoup sont partis, ne sont pas revenus. Souvent les villages étaient détruits pour ne laisser aucun refuge au FLN et donc il y a eu très peu de retours et un tissu social qui est détruit est difficilement réparé. Et donc cette idée d'errance massive, parce qu'il y a plus de 2 millions regroupés dans des camps, 1,5 million forcés de quitter leur lieu d'habitation. Donc,
on parle de plus de 4 millions, effectivement.
Près de 3,5 millions. Donc ça, c'est les chiffres reconnus. Mais c'est vraiment un très, très grand nombre de personnes qui, finalement, perdent un ancrage à la fois territorial, à la fois linguistique, à la fois aussi spirituel, parce que ces villages, c'était aussi des lieux de protection des ancêtres. Donc il y a quelque chose qui est profondément bouleversé et que moi, j'ai mis du temps aussi à comprendre. Parce que on peut se dire bon, un déplacement forcé de quelques kilomètres. Et alors, nous qui déménageons tant dans nos sociétés, c'est difficile de se représenter ce que ça signifie. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je l'ai mieux saisi.
Votre film est une quête, une enquête. Je voudrais qu'on s'arrête sur deux témoins très touchants que vous retrouvez à Mansoura et qui nous racontent ces camps de regroupement.
Tous y venaient même après
qu'il y ait les barbelés.
Tous ils continuent à venir malgré les barbelés.
Mais هذوك قال لك هذا الجورنو اللي كانوا يجوا
كان
ما سلكوا ما يفوتوا
اه عقبنا قطع السلك ودخلها
اي المهم الكوبي
انا قطع السلك شريت لهم الكلاب ونقطع السلك ونجيبهم يتعشاو ويخرجوا كانوا المرضى والله اللي مبليسين يقعدوا في الكازمات حتى نيبره ويخرجوا
اي لي زوت فامي كي فيفي افيك ايل كي افيت غروبي Elle dénonçait pas.
Alors, oui.
Quelques nains les canaux achetés avec vous dans le ou كل عارفين
باللي كل كل ثوريين نحتاع نتاعو كل نسا خوتي واخواتاتي وكل حنا انا عندي اخت وحده ما
يبي بات فيت alors
non
ونسى الجنود ما تعاد لنا خي نجيبوها من الجزائر وتجي
ما كانش بايوع اللي قال لهم ولا عند العلجام يجوا الجيش هما باعوكم ولا
ما باعني وانا قلت لك كي جبتهم انت
ايه مي انا في المصورة ما نو
باعني في المصورة والله هنا في الدشرة وجابوا الكلاب ودرت السلوم قال لي منا اطلعيهم قال لي منا دخليهم ومنا حط السلوم قال لي منا لي فورور قال لي منا لا خرجوا ولاد الحرام قالوا منا حط السلوم والكلب قلت له لا الكلب الكلاب انتوكم ولا راكم تجيبوهم انت اللي هما ما عندهم لا كلب لا راسهم ما منعوش منكم هاو هذاك عمي روش
Mon rêve, c'était de faire un film avec cette dame. Alja, pour moi, c'était mon enfance. Une enfance faite à la fois de tendresse, d'amour. C'est-à-dire, elle me donnait ce qui me manquait le plus. Et ensuite, je voyais que à l'intérieur de cette femme, son fort intérieur, c'était une grande résistante. C'est-à-dire, c'est une femme. Parce que moi, je servais un peu comme de secrétaire avec les Moudjahidines. Ils ne savaient pas écrire. Donc, moi, je servais pour écrire, pour traduire des choses, etc., de l'arabe au français et tout ça. Et elle avait en dessous de son tapis sur lequel elle est assise, donc une casemate, là où les gens vivaient là. À l'intérieur, sortaient, ils étaient armés, tout ça. Tout ça se passait naturellement. Et ces 5 enfants, ces premiers enfants, sont tous morts pour la guerre d'Algérie. Et ces gens-là, lorsqu'il y a eu l'indépendance, on ne leur a donné aucune reconnaissance. Et moi, la première chose que je voulais faire, c'est tendre un micro, une caméra à cette femme, et pouvoir parler avec elle d'adulte à adulte. C'était plus un enfant qui parle à sa mère, mais un homme adulte. Et lorsqu'il m'a vu, il m'a dit « Malek, tu as grandi !» Qu'est-ce que tu es beau, etc. Enfin, il était content de me voir, c'était super. Et elle me dit, tu sais, j'accepte de votre interview que je donne comme cadeau à ta fille, c'est que ta maman, lorsque j'ai eu ma fille, eh ben, il est venu, il a enlevé sa boucle d'oreille, il a accroché à l'oreille de ma petite fille. Donc c'est une boucle d'oreille en or. Donc elle m'a donné de l'or. Alors je vais essayer de te dire ce que je pense de la guerre d'Algérie. Et cette femme-là n'a jamais accepté de parler pour la télévision algérienne. Il n'a jamais voulu parler à la radio algérienne. Il a voulu garder ça secrètement pour elle parce qu'on n'est pas venu les voir. une fois que la guerre d'Algérie est terminée, la Kabylie isolée, la Kabylie est devenue une région de mouvement et de revendication et de recherche de liberté et tout ça. Ces gens-là, on les a oubliés, on les a mis de côté. C'est fini. Les femmes, on ne les connaît pas. Ils sont rentrés dans Berkay et c'est terminé. La guerre d'Algérie est classée. D'autres sont venus de Tunis et de Maroc et ont gouverné le pays qu'on a aujourd'hui.
Autre témoignage, Swilah, on va l'écouter.
Quelqu'un d'autre beaucoup de napalm. Qui fait le choix de mettre tout, tu as y'a des slicts.
Vous avez que de gâcher la loi, je n'ai pas comme un de la hajra, j'ai été là. Voilà qu'il n'a pas classé, fait, mais ça ne va. Un yem, je vois d'où. Tu ne fais pas j'ai été الواحد إلا تقاس في كرعيه والله في عينيه ما عندوش ل... هذا هو ل... ل... ممكن وكان مثل ما موش تقاس في عينيه ممكن نمنع القش نتاعي وكل مخرج يعني لو يعني كان الإنسان يعني يدري باش يفصل كما اليوم هكذا ترى القش هذاك نخبيه باش يعني ياخذوا العبره يعني كيف
Swilah raconte un bombardement au napalm, il accroche ses médailles à sa boutonnière comme autant de victoires et de dignité. Pourquoi c'était important de le faire témoigner?
Parce que Swilah, c'est un grand combattant. Il a failli perdre ses yeux, il a vraiment c'était un homme très engagé. Mais qui a tout pardonné. Et un jour, il m'a dit, soyez là, en dehors de l'interview qu'il a donnée, il a dit, moi, je reconnais dans l'armée française un adversaire, parce que lorsque j'ai été sur le lit, après avoir reçu le napalm et tout ça, il m'a dit, un lieutenant qui est venu me voir, il a dit, cet homme-là, c'est un soldat comme moi, je ne voudrais pas que vous le torturez, je refuserai qu'il soit maltraité, je voudrais qu'il soit d'abord soigné. Donc il sait faire la différence entre des militaires qui respectent la règle de la guerre et ceux qui torturaient, ceux qui excédaient qui exerçaient un pouvoir qui était à leur faveur. C'est quelqu'un qui est un homme, même maintenant, humain. Il ne veut pas rentrer dans le politique actuel, il ne veut pas se mêler de politique. C'est quelqu'un qui a quand même fait un devoir moral vis-à-vis des siens et vis-à-vis de l'Algérie, quoi.
Et c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une rencontre très forte et ça a été même pivot dans l'écriture de mon documentaire parce que c'est quelqu'un qui avait du mal à raconter son histoire, qui, à chaque fois que je l'ai interviewé, se bloquait en fait. Et je pense que ce trauma du bombardement en napalm, il y a aussi cette culpabilité en fait, de n'avoir pas pu sauver les autres. Parce que lui, il est survivant. Il y a 73 autres qui sont morts. Et c'est un fait marquant vraiment dans la région et qui est d'ailleurs documenté par Yves Courrière lui-même. J'ai pu retrouver des pages vraiment historiques sur cette histoire. Et lui évoque d'ailleurs du napalm. Mais c'est un élément que je n'ai pas retrouvé dans les archives de l'armée française que j'ai pu consulter. Je n'ai pas eu accès à toutes les archives, mais celles que j'ai pu consulter, je n'ai pas retrouvé cet élément. D'où l'importance de ce témoignage réellement. De quelqu'un qui a souffert cette histoire et qui aujourd'hui regrette encore de ne pas avoir une autre preuve que sa parole.
Malek, c'est votre fille qui a fait ce film, ce n'est pas vous, alors que c'est vous le réalisateur. Pourquoi ?
Moi, je suis. J'ai la double difficulté, c'est d'être algérien et d'être français. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je propose un film pour les Algériens de France, ils disent non, c'est un Français qui vient travailler chez nous, faire remuer l'histoire. Il y a une indépendance d'esprit et d'engagement qu'ils ne contrôlent pas, donc ils se méfient. Et lorsque je suis en France, je présente un scénario en disant « Mais Malek, vous êtes algérien, vous avez des comptes à régler, allons-y lentement, s'il vous plaît, machin, etc. » Bon, ce n'est pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine, comme s'il y avait un quota de films qu'il faut passer sur une chaîne publique. Donc c'est quelqu'un d'autre qui passe avant moi, parce que ça concerne le problème des Harkis. L'Algérie, lorsqu'on va, on est là-bas et qu'on est est français, on est soupçonné d'avoir appartenu donc à une certaine colonisation, qu'on est teinté d'eux, etc., etc. Et du coup, on est prisonnier de tout ça. On ne peut pas.
Et vous étiez aussi prisonnier de ce silence, drap du silence que vous aviez étalé dans l'intimité de votre famille.
Silence de mon histoire, l'histoire de mon pays. Je suis désolé lorsque moi, je rompais réellement avec l'Algérie lorsqu'il y a eu les histoires des islamistes dans les années 90, où il y a eu des violences. Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants? À l'époque, il y avait 6 ans, 7 ans, et ils nous entendaient parler, moi et ma femme, de l'Algérie, de la violence entre les militaires et le fils, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Je raconte ça, c'est horrible. Des têtes que l'on coupe, des gens qui sont atrocement, que nous-mêmes ne comprenons pas, parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui s'adresse à qui. C'est une confusion totale.
Mais les camps de regroupement, pourquoi vous n'en aviez pas parlé à vos filles?
Parce que ce n'est pas honorable de dire, bon, on a... Moi, je ne veux pas dire à mes enfants, j'ai faim. C'est quand même pas réel, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est lorsque moi-même, je suis donc francophone, francophile même, je fais des études, j'ai grandi dans une culture française, qu'est-ce que vous voulez que je retourne l'arme contre moi-même? C'est-à-dire, je suis un homme universel, un homme qui défend la liberté où qu'elle soit. Vous voulez que je la raconte? Je retourne le truc en disant c'est la faute des Français. Non, c'est nous, on a fait la guerre d'Algérie pour être libre. C'est pas contre les Français. Les Français aussi ont fait la guerre d'Algérie. Une grande partie des Français ont soutenu le FLN avec comporteurs de valises. Ils ont été en prison. Moi, j'ai côtoyé Georges Arnaud. J'ai côtoyé des gens qui étaient en Algérie de 1962, qui nous ont appris ce qu'était la résistance en France. Donc, c'était un grand moment. Mais c'est très difficile, ce moment-là, de parler de tout ça. C'est une blessure pour moi. C'est une grande blessure. Je reste muet.
Dorothée, vous avez souffert de ce silence paternel.
C'est vrai que c'est assez perturbant en fait de grandir dans une famille, dans un pays où en fait il n'y a pas de place réellement pour l'Algérie. Ou alors c'est une place difficile, c'est une place, je dirais que voilà, il y a des crispations, il y a du mépris, il y a de l'incompréhension, et donc il n'y a pas un confort. Et je pense que moi, très tôt, j'étais à la fois très fière que mon père soit algérien. C'était presque un drapeau que je brandissais. Et en même temps, je ne connaissais rien de l'Algérie. Pour moi, l'Algérie, c'était les bars où parfois mon père allait boire des coups avec ses copains, ou bien le marché le dimanche où on m'offrait des zaytounes, des olives... Et c'était réduit à quelques endroits, à quelques moments, à quelques mots. Mais il y avait un attachement profond. Et je pense que, quelque part, même s'il n'y a pas une transmission par les mots, il y a une transmission émotionnelle. Enfin, il y a quelque chose où... moi, je me souviens d'un moment où j'écoutais en fait des CD de musique nostalgique des années 60-70. Et je disais à mon père, ça veut dire quoi nostalgie? Je ne connaissais pas le mot. Et je me souviens qu'il avait été très ému en fait, de cette question. Ah, nostalgie. Et là, ouais, donc il y a effectivement cette nostalgie du pays qui est là, sans même l'avoir connu. Et moi, c'est vrai que ça a déterminé tout mon parcours d'études, de voyages, de recherches historiques.
C'est en Palestine que se joue le déclic
Effectivement, je pense que quand j'ai travaillé donc 2 ans à documenter en fait l'occupation militaire en Cisjordanie et à Gaza, il y a eu un moment de déclic en fait où je me suis rendu compte qu'on était dans une situation de violence physique mais aussi symbolique et que en fait j'étais face à donc des Palestiniens avec qui j'étais en lien qui avaient du mal à raconter. Et je me souviens qu'un jour j'ai dit à mon père, est-ce que tu vas venir me voir? Et il m'a dit, je veux pas revivre les checkpoints. Je dis, mais quel checkpoint? Et à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à vraiment m'interroger sur le lien peut-être entre Palestine coloniale, Algérie coloniale. Mais pour moi, le vrai soutien, c'est aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait mes études d'histoire et d'arabe à Washington, aux États-Unis. Et c'est un de mes profs qui était libanais-américain, Oussama Abimarchet, spécialiste de l'Algérie coloniale, qui m'a dit, bon, bah, puisque tu es d'origine algérienne, tu vas chercher du côté de l'oubli. Et moi, je ne savais pas du tout de quel oubli il voulait parler. Et il m'a dit, mais demande à ton père, à ton grand-père, à ton grand-oncle, etc. Tu vas trouver une histoire qui va te permettre de raconter l'Algérie. Parce que c'est ce manque de mémoire intime, de transmission de mémoire intime aussi qui est vrai en France, qui est vrai en Algérie. C'est-à-dire que on peut écrire l'histoire à partir des archives militaires françaises. Mais ce que moi, j'ai constaté, c'est qu'on n'avait pas la voix de ceux qui ont vécu cette politique. Et réellement, je cherchais à comprendre ce qui se passait émotionnellement, comment ça les avait atteints et comment ça pouvait continuer à faire partie d'eux et qu'est-ce qu'ils avaient pu transmettre malgré tout dans le silence à leurs enfants.
Vous parlez d'effacement, c'est fort.
Oui, bah c'est d'ailleurs, c'était un rêve que j'avais de manière récurrente. C'est-à-dire que plus j'approfondissais cette histoire et plus je rêvais d'effacement. C'est-à-dire que tout était blanc. Et c'était comme si je prenais conscience de presque d'une volonté politique d'effacement d'une mémoire. C'est-à-dire qu'en Algérie aussi, c'est une mémoire qui n'existe pas, qui est peu transmise. Et à un moment donné, je me suis interrogée sur pourquoi cette mémoire, qu'elle n'existe pas en France, on peut mieux le comprendre parce qu'il y a une histoire, une relation au déni. Mais en Algérie non plus, cette histoire de camp n'est pas connue. Et quand j'en ai parlé à des jeunes de ma génération, eux-mêmes étaient très surpris et n'imaginaient pas l'ampleur, en fait. Quand ils voyaient le film, ils se disaient « je vais voir en rentrant chez moi si peut-être que dans ma famille aussi, il y a ces histoires de déplacement forcé ». Une fois qu'on ouvre la parole, eh bien, il y a plein d'autres témoignages qui existent et qui se livrent.
Pour vous, Malek, comment ça s'est passé ce retour au pays après tant de décennies d'absence, d'exil ?
Mais je n'ai jamais perdu cette odeur, je n'ai jamais perdu ce soleil, cette vie intérieure, cette Algérie que je portais en moi. J'allais passer des vacances en Grèce, j'allais en Tunisie, j'allais au Maroc. Je tournais comme un aigle au temps des Grecs, on faisait tourner les aigles pour savoir où est le monde. Et en fait, vous voyez l'Algérie, vous voyez dans mes rêves, dans mes sentiments, dans ce que j'ai de plus profond, de plus... La première chose que j'ouvre, par exemple, pour les journaux électroniques, je regarde ce qui se passe en Algérie. C'est marrant. C'est quelque chose que je porte en moi. Voilà, c'est l'Algérie. Mon Algérie, c'est intérieur. Mais ce qui m'a manqué le plus, c'est une culture du monde arabe. Une culture du monde arabe à laquelle je n'avais pas accès. J'avais appris l'histoire de France, j'avais appris la culture française, etc. Mais j'ai commencé il y a une dizaine d'années à m'intéresser à l'histoire du monde arabe et c'est fabuleux. Les philosophes, les historiens, les Ibn Khaldoun, les Ibn Arabi, les Ibn Rushd, etc. Je commence à les travailler, à me rendre compte que c'est eux qui ont transmis la civilisation grecque au monde occidental.
Parce que vous l'aviez rejeté.
Oui. J'avais pas d'outils. Et là, je commence à avoir les outils nécessaires. Quand je vois les jeunes qui s'intéressent au monde arabe uniquement à travers la religion, ils n'ont rien compris du tout. Parce qu'il y a autre chose. La médecine, la chimie, la philosophie, la poésie, la culture, le savoir, le théâtre, la musique, etc. etc. C'est d'une richesse fabuleuse.
Alors après toutes ces années de silence, vous devenez à la fois... Un acteur de ce film, vous devenez aussi un guide, un narrateur. Vous prenez vraiment ce film comme la libération de votre parole.
Un poids que j'ai transmis à qui de droit. J'ai donné à ma fille, je ne sais pas que c'est pas un... Non, c'est vraiment une richesse d'être compris et d'avoir transmis un message qu'elle doit peut-être retravailler autrement à sa manière... Elle est libre, moi je suis libre aussi.
Et vous faites toujours ces cauchemars où vous tuez quelqu'un ?
Non, je ne fais plus de cauchemars.
Parce que vous racontez
je fais beaucoup de rêves. Je fais beaucoup de rêves parce que mon pays fait beaucoup de rêves actuellement. Je crois que c'est possible.
Et quel est votre rapport aujourd'hui à l'Algérie ? Vous y retournez un petit peu plus souvent ?
Je retourne beaucoup plus souvent. Et j'ai des amis, je téléphone. Non, je suis dans l'associatif aussi. Je travaille beaucoup pour l'immigration, le cinéma et l'immigration. Donc c'est... Non, il y a un changement qualitatif, vraiment.
Vous regardez aussi, vous observez ce soulèvement populaire du peuple algérien, le Hirak.
Qui a lieu aussi en France.
Qui pour beaucoup équivaut à une deuxième indépendance. Est-ce que pour vous aussi,
une continuité, c'est pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. C'est une continuité logique d'un pays qui cherche à se libérer ça mettra autant de temps que ça mettra, la liberté comme ça, quoi. C'est pas, ça donne pas et ça s'acquiert.
Et vous, vous y retournez un petit peu plus souvent aussi en Algérie ?
Oui, c'est vrai que je pense que ce film a vraiment créé des liens dans le village. Et moi, j'étais touchée aussi que quand on a projeté le film, finalement, donc ma sœur est venue, sa fille, c'était la première fois qu'elle venait. Donc, il y a eu une transmission aussi à l'intérieur de ma famille et à l'intérieur du village aussi, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même cette sensation pour les populations regroupées et même leurs descendants d'être étrangers sur une terre. C'est-à-dire qu'ils disent encore aujourd'hui, moi je suis du village de là-haut en fait, mes ancêtres ne sont pas de ce village-là. Et d'avoir pu réunir des populations qui en fait ne se vivent pas forcément du même lieu autour de ce film, moi j'ai trouvé ça vraiment fort. Et je pense que ça s'inscrit dans ce mouvement du Hirak, en fait, de citoyenneté, en fait. On n'est plus juste d'une tribu ou d'un village ou d'une région. On fait société tous ensemble et on est un seul corps politique qui recherche une justice, une liberté. C'est une réappropriation à la fois d'une histoire personnelle, mais aussi pour moi, m'inscrire dans un collectif.
Et en France, comment ça se passe? Comment vous vous sentez à l'heure où des obsessions identitaires refont surface pour la énième fois, obsessions identitaires qui, pour beaucoup, prennent racine dans cette histoire coloniale et ce passé toujours pas réglé, regardé en face avec l'Algérie?
Sincèrement, moi, je ne crois pas du tout au conflit. Je pense qu'il faut aller chercher l'apaisement. Et l'apaisement se fait pas à travers des colères, pas à travers des violences, mais à travers un regard apaisé. Tout le monde rêve d'une citoyenneté universelle. Je ne veux pas être complètement dans l'abstrait, gentil et tout, mais je crois que ça ne sert à rien de se refermer sur ses propres valeurs et de préparer sa défense contre l'autre sans le connaître. Il faut d'abord apprendre à connaître l'autre, et puis là, il y aura des échanges, il y aura des amitiés qui vont se développer, parce que la fraternité humaine, elle est là. Il est entre nos mains, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. Donc moi je me sens plutôt apaisé, je crois beaucoup plus à l'avenir des êtres humains. Ça passe par des conflits, des tensions, parce que c'est nécessaire avant l'éclosion de la vraie liberté.
Ben, en fait, moi je pense que quelque part ce film, il m'a aidé en fait à... quelque part même à me réconcilier en fait avec la France, parce que j'étais, je pense, en colère. Je me disais, mais pourquoi en fait il faut que j'aille aux États-Unis étudier pour connaître l'histoire de ma famille? Enfin, c'est quand même un long détour et c'est un privilège. Moi, j'ai pu faire ces études grâce à une bourse, j'ai été soutenue, mais j'aurais vraiment aimé ne pas avoir à faire tout ce chemin si compliqué pour avoir accès à une mémoire intime si proche. Et je pense que ce film, en fait, m'a apaisée en me disant, ben, en fait, voilà, j'ai pu avoir accès à cette mémoire. Et cette mémoire, donc ce film, il a été soutenu aussi par le CNC en France, il a été soutenu par la Bourse Brouillon d'un rêve, il a été soutenu par des institutions, il est montré dans des cinémas. Je pense que ça m'a sorti d'une sensation d'être peut-être isolée, d'une espèce de solitude, parce que c'est des mémoires très lourdes à porter seules, et de me dire que voilà, on est un collectif et qu'on est nombreux en fait à avoir ce désir de raconter, et on est beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Et c'est vrai que médiatiquement on rapporte beaucoup cette histoire de crispation identitaire, mais il y a aussi beaucoup de monde qui cherche à ouvrir ça et à ne pas s'y enfermer. Et peut-être que c'est cette parole-là, en fait, qui manque et à laquelle, moi, j'ai envie d'avoir accès et de partager.
Merci, Dorothée. Merci, Malek. À Mansoura, tu nous as séparés, visibles jusqu'à la fin du mois sur Mediapart, grâce à notre partenariat avec la plateforme documentaire Tink. Vous pouvez également continuer à dérouler cette histoire méconnue sur France Culture ou le podcast L'Algérie des camps de Dorothée Myriam Kellou va être diffusé. À très bientôt sur Mediapart.